James, un portrait de femme, chapitre 27. Je n'entreprendrai pas de rapporter tout au long la façon dont notre jeune héroïne répondit à l'appel profond de Rome, d'analyser ses sentiments lorsqu'elle foula les dalles du forum, ou de compter les pulsations de son cœur quand elle franchit le seuil de Saint-Pierre. Contentons-nous de dire que son impression fut celle que l'on pouvait attendre d'une personne aussi fraîche et aussi ardente qu'elle. Elle avait toujours eu du goût pour l'histoire, et trouvait ici de l'histoire vivante sur chaque pavé des rues et dans chaque atome de lumière. Son imagination s'était toujours enflammée à la mention de grandes actions, et chacun des lieux qu'elle regardait avait été témoin d'exploits immortels. Tous ses souvenirs la touchaient au fond de l'être. Ses compagnons la trouvaient moins communicative qu'à l'accoutumée, et Ralph Touchett faisait mine de regarder distraitement et gauchement par-dessus sa tête pour l'observer en fait avec une attention profonde. Elle se trouvait elle-même très heureuse et eût volontiers tenu ces jours-là pour les plus heureux qu'elle dût jamais connaître. L'angoisse du lourd passé pesait sur elle, mais le souvenir de faits tout récents lui prêtait des ailes pour battre le ciel. Ses sentiments étaient si contradictoires qu'elle n'eût su dire où l'amènerait chacun d'eux, et elle allait tout à la joie contenue de sa contemplation, voyant souvent dans les choses bien plus qu'elles ne comportaient, et négligeant pourtant bien des détails indiqués par son guide. Rome, comme le disait Ralph, se laissait saisir au moment psychologique. Le troupeau des touristes bavards s'était retiré, et la plupart des lieux célèbres étaient retombés à leur solennité. Le ciel était un flamboiement d'azur, et les fontaines jaillissantes dans leurs niches moussues avaient perdu leur frisson et redoublaient d'harmonie. Au coin des rues lumineuses et chaudes, on tombait sur des bouquets de fleurs. Une après-midi, le troisième jour suivant leur arrivée, nos amis s'étaient rendus au forum pour assister à des fouilles dont on élargissait depuis quelque temps le champ. Ils avaient quitté la rue moderne et suivaient la voie sacrée, avec un respect qui ne se manifestait pas de la même façon chez chacun d'eux. Ce qui frappait Henriette Stackpole, c'était que la Rome ancienne eût été pavée comme New York, et elle découvrait même une analogie entre les ornières de chars profondément creusées dans la rue antique et les bruyants rails d'acier où s'exprime l'intensité de la vie américaine. Le soleil commençait à décliner, l'air s'embrumait d'or, et les ombres de fûts brisés ou de vagues piédestales s'allongeaient sur le champ des ruines. Henriette s'éloigna avec Mr. Bentling, qu'elle semblait prendre grand plaisir à entendre traiter Jules César de vieux bonhomme à poigne, et Ralph déversa toutes les explications dont il était capable dans l'oreille attentive de notre héroïne. Un des humbles archéologues qui rôdait aux alentours s'était mis à la disposition du couple et débitait ses tirades avec une volubilité que le déclin de la saison n'avait pas compromise. Une série de fouilles s'opérait dans le coin le plus éloigné du forum, et il fit observer que si les signori voulaient se déranger un peu, ils pourraient assister à quelque intéressante découverte. La proposition séduisit Ralph, mais Isabelle, lasse de tant d'allées et venues, conseilla à son compagnon de satisfaire sa curiosité, tandis qu'elle attendrait patiemment son retour. L'heure et le lieu étaient entièrement à son goût, et elle se réjouissait de demeurer un moment seule. Ralph s'éloigna donc avec le guide, tandis qu'Isabelle s'asseyait sur une colonne renversée, près des fondations du Capitole. Elle souhaitait un peu de solitude, mais ne fut pas longue à en jouir. Malgré son intérêt pour les vestiges sévères d'un passé qui gisait autour d'elle, et où la rouille des siècles avait encore laissé tant de la vie primitive, sa rêverie, un moment fixée par ces objets épars, était revenue par un enchaînement de pensées qu'il faudrait une certaine subtilité pour suivre, vers des régions et des objets chargés d'une émotion plus active. Du passé de Rome à l'avenir d'Isabelle Archer, il y avait une belle distance, mais son imagination la franchissait d'un coup d'aile et planait maintenant au-dessus de champs plus proches et plus fertiles. Elle regardait à ses pieds une rangée de dalles fendues mais intactes et s'absorbait si bien dans sa rêverie qu'elle n'entendit pas marcher près d'elle. Une ombre tomba soudain dans le champ de sa vision, et pensant que Ralph allait se plaindre du morne ennui des fouilles, elle leva les yeux vers une silhouette masculine. L'homme qu'elle aperçut n'était pas Ralph, et s'arrêta avec un tressaillement. Elle tressaillit aussi, et pâlit légèrement, tandis que le nouveau venu se découvrait. « Lord Warburton ? » s'écria-t-elle en se levant. « Je n'avais pas la moindre idée de vous rencontrer ici. Je débouchais par ce coin et suis tombée sur vous. » Elle jeta les yeux autour d'elle en manière d'explication. « Mes amis viennent de me quitter à l'instant. Mon cousin est allé regarder les travaux. »« Ah oui, je vois. » et les yeux de Lord Warburton se portèrent machinalement vers le côté qu'elle indiquait. Très droit maintenant, il avait retrouvé son sang-froid et semblait vouloir le montrer, bien que sans rigueur. « Je ne veux pas vous déranger, » reprit-il, en regardant le pilier où elle s'était assise. « Je crains que vous ne soyez lasse. »« Oui, un peu. » Elle hésita un moment, puis reprit sa place. « C'est vous que je ne veux pas déranger, » dit-elle. « Oh mon Dieu, je suis parfaitement seule. Je n'ai absolument rien à faire. Je n'avais pas la moindre idée que vous fussiez à Rome. Je viens de rentrer d'Orient et ne suis que de passage. » « Vous avez fait un long voyage, » dit Isabelle, qui avait su par Ralph que Lord Warburton était absent d'Angleterre. « Oui, je suis partie 6 mois, peu après notre dernière entrevue. J'ai été en Turquie et en Asie mineure. Je suis rentrée d'Athènes l'autre jour. » Il avait surmonté son embarras, conservait partout une certaine raideur. Puis soudain, après avoir bien regardé la jeune fille, il reprit un ton naturel. « Désirez-vous que je vous quitte ou voulez-vous m'autoriser à rester un moment près de vous ?» Elle fit montre d'humanité. « Je ne souhaite pas que vous partiez, Lord Warburton. Je suis très heureuse de vous voir. »« Merci de le dire. Puis-je m'asseoir ?» Le fût cannelé sur lequel Isabelle était assise aurait pu servir de siège à de nombreuses personnes et offrait une surface très suffisante, même pour un Anglais de belles proportions. Ce beau spécimen d'une nation robuste s'assit donc près de notre jeune amie et lui posa coup sur coup plusieurs questions quelque peu décousues, dont le fait de répéter certaines semblait indiquer qu'il n'avait pas entendu les réponses. C'était une indication sur l'état de son être intime, que ne pouvait laisser échapper une perception féminine. Il répéta coup sur coup qu'il ne s'était pas attendu à cette rencontre, qui le touchait de façon assez manifeste pour lui faire souhaiter qu'elle eût été préparée. Puis soudain, cessant de s'étonner de l'impunité des événements, il s'étendit sur leur solennité et passa de l'état charmant à l'état impossible des choses. Il était magnifiquement beau, jusqu'à sa barbe touffue qu'avaient brûlé les feux de l'Asie. Il portait un de ces vêtements lâches et bourrus qui indiquent chez l'Anglais en voyage l'amour du bien-être, autant qu'il proclame sa nationalité, et avec ses beaux yeux calmes, son teint bronzé demeurait frais sous le hâle, sa tournure virile, son air de modestie et sa prestance générale de gentilhomme et d'explorateur. Il constituait un représentant de la race britannique que n'aurait désavoué sous aucune latitude aucun de ceux qui la tiennent en estime. Isabelle notait ces détails et se sentait heureuse d'avoir toujours ressenti de la sympathie pour lui. Il avait évidemment, en dépit de ses peines, conservé tous ses mérites, toutes ses qualités qui allaient pour ainsi dire de pair avec l'âme profonde de ces grandes familles qui ressemblaient à leur maison et à leur mobilier, restaient insensibles à l'usure vulgaire et que pouvait seul détruire un effondrement total. Ils abordèrent naturellement divers sujets, la mort de Mr. Touchett, l'état de santé de Ralph, la façon dont Isabelle avait passé l'hiver, sa visite à Rome, son prochain retour à Florence, ses projets pour l'été, le nom de son hôtel. Puis ce fut à Lord Warburton de conter ses aventures et ses voyages, d'indiquer ses projets, ses impressions et son domicile actuel. Après quoi survint un silence, tellement plus éloquent que toutes leurs paroles, qu'il rendrait presque inutile la conclusion du jeune homme. « Je vous ai écrit plusieurs fois. »« Vous m'avez écrit ? Je n'ai jamais reçu vos lettres. » « Je ne les ai pas envoyées, je les ai brûlées. »« Ah !» fit Isabelle en riant. « Je suis heureuse de vous avoir laissé ce soin. »« Je craignais qu'elle ne vous déplût, » avoua-t-il avec une simplicité qui la toucha. « Je songeais qu'après tout, je n'avais pas le droit de vous importuner. »« J'aurais été heureuse d'avoir de vos nouvelles. Vous savez combien j'espérais que... » « Que... » Elle s'arrêta en sentant quelle platitude l'expression allait donner à sa pensée. « Je sais ce que vous allez dire. Vous espériez que nous resterions toujours bons amis. » Cette formule prenait en effet dans la bouche de Lord Warburton un ton suffisant de platitude, seulement il avait intérêt à l'accentuer. Isabelle ne put que balbutier. « Ne parlez plus de tout cela, je vous prie. » Et s'aperçut que cette phrase ne sonnait pas beaucoup mieux que l'autre. « C'est pourtant une petite consolation à m'accorder, » s'écria Lord Warburton avec force. « Je ne saurais prétendre à vous consoler, » répondit la jeune fille, qui retrouva avec une sorte de triomphe intérieur la réponse qui avait si peu satisfait Warburton 6 mois auparavant. Il était aimable, fort, brave. Il n'y avait pas de meilleur homme. Pourtant, la réponse ne changea pas. « Vous faites aussi bien de ne pas l'essayer. Vous n'y réussiriez pas, » déclara Lord Warburton, sans noyer l'étrange et joyeuse exaltation d'Isabelle. J'espérais que nous nous rencontrerions à nouveau, parce que je ne soupçonnais pas que vous m'accuseriez de vous avoir fait du tort, et lorsque vous me le reprochez, j'en éprouve plus de peine que de plaisir. et elle se leva avec une certaine majesté consciente pour aller au-devant de ses amis. « Je ne veux pas me plaindre. Je n'ai pas le droit de rien dire de semblable. Tout ce que je demande, c'est de vous donner quelques explications, en stricte justice pour moi-même, si vous voulez. Je ne reviendrai pas sur le sujet. Je sentais très fortement ce que je vous ai exprimé l'an dernier. Je ne pouvais penser à rien d'autre. Je me suis efforcée d'oublier, énergiquement, systématiquement. J'ai fait tout ce que je pouvais pour m'intéresser à une autre femme. Je vous dis cela parce que je voudrais que vous sachiez que j'ai fait mon devoir. Je n'y suis pas arrivée. C'est dans le même dessein que je suis partie à l'étranger, aussi loin que possible. On dit que le voyage distrait, mais il n'a pas eu cet effet sur moi. Je n'ai pas cessé de penser à vous depuis que je vous ai vue. Je reste exactement dans le même état d'esprit. Je vous aime autant, et tout ce que je vous ai dit l'autre fois demeure aussi vrai. En cet instant où je vous parle, j'éprouve de nouveau pour mon plus grande âme avec quelle insurmontable puissance vous m'ensorcelez. Oui, je ne saurais en dire moins. Je n'insisterai pas d'ailleurs, ce n'est qu'un moment qui passe. Je puis ajouter seulement que lorsque je suis tombée sur vous tout à l'heure, sans le moindre soupçon de vous rencontrer, je me disais sur mon honneur que je voudrais bien savoir où vous pouviez être. » Il avait retrouvé son calme qui s'affirmait de plus en plus à mesure qu'il parlait. On aurait pu croire qu'il s'adressait à un petit comité, qu'il faisait avec lucidité une communication importante, avec des coups d'œil furtifs sur des notes cachées au fond de son chapeau, qu'il n'avait pas remis sur sa tête. Et le comité aurait, à coup sûr, tenu la démonstration pour acquise. « Moi aussi, j'ai souvent pensé à vous, Lord Warburton, » répondit Isabelle. « Et vous pouvez croire que j'y penserai toujours. » Puis elle ajouta sur un ton où elle s'efforçait de mettre de la sympathie sans trop de signification. « Cela n'a d'inconvénient pour aucun de nous deux. » Ils partirent ensemble, et elle s'enquit de l'état de ses sœurs en le priant de leur faire savoir qu'elle n'avait pas manqué de s'informer d'elle. Il s'abstint de faire de nouvelles allusions à la grande question qui s'agitait entre eux, et revint à des eaux plus calmes et moins profondes. Il lui demanda cependant quand elle devait quitter Rome, et, apprenant la date de son départ, dit sa joie de la savoir encore éloignée. « Pourquoi dites-vous cela, puisque vous n'êtes vous-même que de passage ? » interrogea-t-elle avec une certaine inquiétude. « Oh, en disant que j'étais de passage, je ne prétendais pas en agir avec Rome comme avec une garde en branchement. Passer à Rome, c'est y rester une ou deux semaines. » Avouez franchement que vous voulez y demeurer aussi longtemps que moi. » Lord Warburton rougit un peu et lui lança un regard pénétrant. « Cela vous déplaît-il » demanda-t-il en souriant. « Vous avez peur que je sois encombrant ? Peu importe mes goûts, je ne puis certainement pas vous demander de renoncer pour moi à cette adorable ville. Mais j'avoue que j'ai peur de vous. Peur que je recommence ? Je vous promets de me bien surveiller. » Il s'était arrêté et resté un moment face à face. « Pauvre Lord Warburton, » fit-elle, avec une compassion qui voulait être apaisante pour chacun d'eux. « Pauvre Lord Warburton, en effet, il sera très sage. Libre à vous d'être malheureux si vous ne me rendez pas malheureuse aussi, cela je ne puis vous y autoriser. Si je pensais y avoir quelque chance, je crois que je l'essaierais. » À ces mots, Isabelle se remit en marche et le jeune homme la suivit. « Je ne dirai jamais un mot pour vous déplaire. Entendu. Et si vous manquez à votre promesse, c'en est fait de notre amitié. Peut-être un jour, après un certain temps, m'y autoriserez-vous ? À me rendre malheureuse ? À vous répéter ?» Il hésita puis se contint. « Je ne vous dirai rien, jamais rien. » Ralph Touchett avait été rejoint au bord de l'excavation par Miss Stackpole et son cavalier servant, et les trois amis, émergeant des tas de gravats et de terre amassés autour de la fosse, s'offrirent au regard d'Isabelle et de son compagnon. Le pauvre Ralph héla son ami avec une joie mêlée de stupeur, et Henriette lança du haut de sa voix. « Seigneur, c'est le Lord !» Ralph et son voisin de campagne se retrouvèrent avec la gravité propre aux Anglais, au retour d'une longue séparation, et Miss Stackpole écarquilla les yeux devant le visage brûlé du voyageur. Elle sut vite d'ailleurs se montrer à la hauteur des circonstances. « Je ne pense pas que vous vous souveniez de moi, monsieur ?»« Si, je me souviens parfaitement de vous. Je vous ai prié de venir me voir, et vous ne l'avez jamais fait. »« Je ne vais pas partout où l'on m'invite, » répondit froidement Miss Stackpole. « Alors je ne vous inviterai plus, » dit en riant le maître de Stockley. « Si vous m'invitez, je viendrai, soyez-en sûr. » Malgré son hilarité, Lord Warburton parut pénétré de cette conviction. Quant à Mr. Bentley, qui s'était jusque-là tenu modestement à l'écart, il saisit l'occasion d'adresser un petit signe de tête au Lord, qui riposta cordialement. « Comment, c'est vous, Bentley ?» et lui serra la main. « Tiens, » dit Henriette, « je ne savais pas que vous le connussiez. » Vous n'êtes peut-être pas informé de tous les gens que je connais, rétorqua jovialement Mr. Mantling. Je croyais que lorsqu'un Anglais connaissait un lord, il le proclamait toujours. Je crains que Bantling n'ait eu un peu honte de moi, intervint Lord Warburton avec un nouveau rire. Isabelle fut heureuse de l'entendre et poussa un petit soupir de soulagement en reprenant le chemin de l'hôtel. Le lendemain était dimanche, et elle consacra la matinée à écrire deux lettres, l'une à sa sœur Lily, l'autre à Madame Merle, sans mentionner dans aucune le fait qu'un soupirant évincé lui menaçait d'une demande nouvelle. L'après-midi du dimanche, tous les bons Romains, et les meilleurs d'entre eux sont souvent les barbares du Nord, ont coutume d'aller entendre les vêpres à Saint-Pierre, et il avait été convenu entre nos amis qu'ils se rendraient ensemble à la grande basilique. Une heure avant l'arrivée de la voiture, Lord Warburton se présenta à l'hôtel de Paris, et en l'absence de Ralph Touchett et de Mr. Bantling, qui venaient de sortir ensemble, fut introduit près des deux dames. Il semblait vouloir affirmer à Isabelle son intention de se tenir à sa promesse de la veille. Il fit montre de discrétion et de franchise, et ne manifesta ni muette importunité, ni émotion hautaine. Il lui laissa ainsi juger de l'ami qu'il pouvait être. Il parla de ses pérégrinations, de la Perse, de la Turquie, et quand Miss Stackpole lui demanda si un voyage en ces régions pourrait être d'un bon rapport, il lui affirma qu'elle y trouverait un champ largement ouvert à l'activité féminine. Isabelle lui rendit justice, non sans se demander à quel mobile il obéissait et ce qu'il espérait gagner en démontrant la noblesse de sa sincérité. S'il souhaitait l'attendrir en faisant preuve de soumission, il perdait bien sa peine. Elle savait tout ce qu'il comportait de supériorité, et rien de ce qu'il pouvait faire ne l'éclairerait davantage sur ce point. Par ailleurs, sa présence à Rome faisait l'effet d'une complication embarrassante, et elle n'aimait que les complications agréables. Cependant, lorsqu'à l'issue de sa visite, il dit son intention de se rendre aussi à Saint-Pierre et d'y chercher ses amis, force fut à la jeune fille de s'incliner et de le laisser agir à sa convenance. Dans l'église dont elle foulait les mosaïques immenses, il fut le premier personnage qu'elle distingua. Elle ne faisait pas partie de ces touristes hautains qui sont déçus par Saint-Pierre et trouvent la basilique inférieure à sa renommée. La première fois qu'elle était passée sous l'énorme rideau de cuir qui se soulève et retombe à l'entrée, la première fois qu'elle s'était trouvée sous le dôme dominateur et avait vu la lumière filtrer à travers un air épaissi par l'encens et les reflets de marbre et d'or, de mosaïque et de bronze, sa conception de la grandeur s'était vertigineusement étendue. De ce jour, elle n'avait plus manqué d'espace pour planer. Elle regardait, elle s'émerveillait, comme une fillette ou une paysanne, et payait son silencieux tribut au sublime immobile. Lord Warburton marchait à son côté en lui parlant de Sainte-Sophie, mais elle avait peur qu'il n'attirât son attention sur sa conduite exemplaire. Le service n'était pas encore commencé, mais à Saint-Pierre il y a beaucoup à voir, et comme l'immensité du vaisseau comporte une sorte de qualité profane, et qu'il paraît destiné à l'effort physique autant qu'aux exercices spirituels, les groupes et les individus, les dévots et les simples spectateurs peuvent, sans gêne ni scandale, y satisfaire leurs intentions diverses. Dans cette immensité splendide, l'indiscrétion individuelle ne rayonne pas bien loin. Au surplus, Isabelle et ses amis n'en commettaient aucune, car si Henriette s'était, en toute ingéniosité, crue tenue de déclarer que le dôme de Michel-Ange souffrait de la comparaison avec celui du Capitole de Washington, elle avait soufflé cette appréciation dans l'oreille de Mr. Bantling et l'avait réservée sous forme plus vigoureuse pour les colonnes de l'Interviewer. Isabelle fit le tour de l'église avec Lord Warburton, et en approchant du chœur, à gauche de l'entrée, ils entendirent les voix des chanteurs du pape passer par-dessus la tête des innombrables assistants pressés devant les portes. Ils s'arrêtèrent un moment aux confins de cette foule, composée par moitié de badauds romains et d'étrangers curieux, et écoutèrent le concert sacré. Ralph était évidemment, avec Henriette et Mr. Bantling, à l'intérieur du chœur, où Isabelle voyait, par-delà le groupe serré des spectateurs, la lumière argentée par les nuées d'encens qui paraissaient se mêler aux psalmodies pour monter vers les embrasures gaufrées des hautes fenêtres. La musique se tut, et comme Lord Warburton semblait se disposer à gagner une autre région de l'église, Isabelle ne put que le suivre. Soudain, elle se trouva face à face avec Gilbert Osmonde, qui avait dû se tenir à petite distance. Il s'approchait avec de grandes marques de politesse, comme s'il eût exagéré le formalisme pour se plier aux nécessités du lieu. « Alors, vous vous êtes décidé à venir ?» fit-elle, en tendant la main. « Oui, je suis arrivée hier soir et me suis présentée tout à l'heure à votre hôtel. On m'a dit que vous étiez ici et je me suis mis à votre recherche. Les autres sont là-bas, crut-elle nécessaire d'expliquer. « Je ne suis pas venue pour les autres, riposta-t-il avec vivacité. Elle détourna les yeux. Lord Warburton surveillait leur colloque et avait peut-être entendu ces derniers mots. Elle se souvint tout à coup qu'il s'était exprimé en ses propres termes, le matin où il était venu à Garden Court pour lui demander sa main. Les paroles de M. Osmond avaient attiré à ses joues une rougeur que ce souvenir n'était pas fait pour dissiper. Pour éviter de se trahir, elle présenta l'un à l'autre les deux hommes et fut ravie de voir, à ce moment précis, Mr. Bantling émerger du chœur et frayer dans la foule, avec une vigueur britannique, le chemin à Miss Stackpole et à Ralph Touchett. Cette épithète de « ravi » la concernait seule, car en apercevant l'habitant de Florence, Ralph Touchett ne parut éprouver aucune joie de cette rencontre. Il ne passa pourtant pas sur les devoirs de la politesse et fit remarquer à Isabelle, avec son habituelle douceur, qu'elle allait bientôt grouper tous ses amis autour d'elle. Miss Stackpole, qui avait rencontré M. Osmond à Florence, avait déjà trouvé l'occasion de dire à Isabelle qu'il ne lui plaisait pas plus que ses autres admirateurs, que Mr. Touchett et Lord Warburton, ou même que le petit M. Rosier de Paris. « Je ne sais pas ce qu'il y a en vous, » avait-elle bien voulu déclarer, « mais pour une brave fille, vous attirez les hommes les plus extravagants. Mr. Goodwood est le seul pour qui j'éprouve quelque estime, et c'est précisément le seul que vous n'appréciez pas. » « Que pensez-vous de Saint-Pierre ? » demandait cependant M. Osmond à notre jeune ami. « C'est très grand et très beau, » se contenta-t-elle de répondre. « Trop grand, on s'y sent comme un atome. » « N'est-ce pas justement ce qu'il faut dans le plus grand des temples humains ?» demanda-t-elle, non sans apprécier la tournure de sa phrase. « Sans doute est-ce ce qu'il faut chercher quand on n'est rien, mais c'est une sensation que je n'apprécie pas plus dans une église qu'en aucun autre lieu. Vous auriez évidemment dû être pape !» s'écria Isabelle, en se souvenant d'une phrase qu'il avait prononcée à Florence. « Ah, j'aurais aimé cela !» admit Gilbert Osmond. Pendant ce temps, Lord Warburton rejoignait Ralph Touchett et s'éloignait avec lui. « Quel est cet individu qui cause avec Miss Archer ? » interrogea-t-il. « Il s'appelle Gilbert Osmond et habite Florence. »« Et à part cela ?»« Rien. Oh, si, il est américain, mais on l'oublie, il l'est si peu. »« Il y a longtemps qu'il connaît Miss Archer ? » ?»« 3 ou 4 semaines. »« Elle le trouve à son goût ? » ?»« Elle cherche à s'en rendre compte. » »« Y arrivera-t-elle ? » ?»« À s'en rendre compte ?» demanda Ralph. « À le trouver à son goût. » »« À agréer sa demande, voulez-vous dire ?» « Oui, » admit Lord Warburton après un moment de silence, « je crois que c'est cette chose affreuse que je veux dire. »« Peut-être pas, si l'on ne fait rien pour s'y opposer, » dit Ralph. Le Lord ouvrit de grands yeux, mais comprit aussitôt. « Alors il faut rester absolument passif. »« Comme la tombe, et encore ne sera-ce que courir la chance. »« La chance qu'elle l'accepte, qu'elle ne l'accepte pas. » Lord Warburton réfléchit un moment avant d'ajouter. « Il est donc terriblement fort ?» « Terriblement !» approuva Ralph. L'autre méditait. « Et quoi encore ? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ?» gronda Ralph. « Qu'est-ce qu'il lui faut de plus à elle, voulez-vous dire ?» Ralph lui prit le bras pour le faire retourner sur ses pas. Il fallait rejoindre les autres. « Elle ne demande rien de ce que nous pouvons lui donner. »« Oh, évidemment, si elle ne veut pas de vous !» dit Lord Warburton avec noblesse.